Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Je ne sais pas vous, mais j'ai toujours envie de savoir comment les gens mangent. C'est souvent une question que je pose quand je rencontre quelqu'un. Je suis Mélissa Bounois, j'ai co-créé Manger, et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver et de faire entendre une nouvelle voix dans ce podcast. Une voix que vous connaissez si vous aimez entendre parler de nourriture, c'est celle de Zazie Tavissian. Zazie présente un podcast Sony Music France qui s'appelle Dans le ventre. Dans chaque épisode, elle s'attable avec une personnalité, la bédéaste Pénélope Bagieux, le chef Maurice Sacco, l'auteur-compositeur-musicien Ben Mazuet et plein d'autres. J'ai eu très envie que vous prêtiez une oreille à ces rencontres. Cela continuera ce que fait Manger. Essayez de comprendre ce que notre rapport à la nourriture dit de nous. Bonne écoute.
Le chocolat blanc. Je trouve que ça, c'est scandaleux. Je pourrais faire une manif pour le chocolat blanc. Tellement c'est une arnaque.
De Rokhaya Diallo. Dans le ventre de Rokhaya Diallo.
Une fois n'est pas coutume, j'ai rendez-vous pour le petit déjeuner avec Rokhaya Diallo. Rokhaya Diallo est journaliste, réalisatrice et autrice. Vous l'avez peut-être déjà vue à la télévision où elle défend avec constance ses positions féministes et antiracistes, et ça depuis plusieurs années. J'ai croisé une ou deux fois rapidement Rokhaya, mais j'avais très envie de discuter plus longuement avec elle. J'avais par exemple envie de savoir ce qu'il fallait avoir dans le ventre pour supporter des débats télévisés houleux. Rokhaya m'a dit
« J'adore les sucreries et le chocolat en particulier, c'est vraiment ma passion. Donc tout ce qui est pâtisserie, sucrerie, c'est... Voilà, je pense que là, sans hésiter, on peut aller là-dessus. »
J'ai donc décidé de l'emmener chez Flac, une chocolaterie rue du Nil, dans le 2e arrondissement de Paris.
Ça va, oui, désolé, du coup, ça a mis un temps incroyable. T'inquiète, je suis dans le genre, je suis de l'heure chaîne. Ça sent clairement de l'heure. On va s'installer juste là, nous, en fait. Un chocolat chaud, un café.
Café.
Un café.
Un allongé.
Ou peut-être un cappuccino, c'est pas trop demandé un cappuccino.
Non, non, non. J'aurais peut-être pas le cœur, je suis pas le meilleur des baristas pour la partie latte art, mais il sera bon.
Ça marche.
Merci beaucoup.
Ouais, je vous installe, je vous amène ça.
Bon, Rokhaya, déjà, je voulais savoir, parce que quand je t'ai proposé de faire cette interview, je t'ai demandé ce que tu aimais manger. Et tu m'as dit, ouais, j'avoue que moi je suis assez sucrée et très chocolat.
Exactement, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup les sucreries de manière générale et franchement j'adore le chocolat. Je pense qu'il ne se passe pas un jour sans que j'en mange. Et je pense que c'est vraiment mon entourage qui me le fait remarquer de manière assez systématique depuis longtemps. Donc ouais, c'est quelque chose qui me caractérise pas mal. Ouais.
Et puis quand tu aimes le chocolat, genre depuis gosse, t'étais genre d'enfant à te gaver de plaquettes de chocolat aussi ?
J'ai toujours aimé le chocolat, et j'ai toujours adoré les goûters en fait. Donc j'étais vraiment... goûter sucré, alors quand je sais plus, c'était plutôt des biscuits industriels, mais les Princes de Lu, notamment. Et à un moment donné, ils ont sorti les Princes tout chocolat, j'étais refaite.
Attends, c'était les Princes qui étaient chocolat dedans et qui avaient le contour en chocolat aussi.
Oui, c'est ça. En fait, l'intérieur était au chocolat, hein, comme dans tous les Princes de Lu, et le biscuit était aussi fabriqué en chocolat. C'était trop, trop, trop bon. J'adorais.
Est-ce que tu faisais le truc de, tu sais, quand tu sépares les deux princes et que tu colles les deux parties de chocolat ensemble pour avoir un double chocolat à l'intérieur ?
Alors en fait, dans les princes qui n'étaient pas tout chocolat, des fois je mangeais juste le chocolat du milieu et je laissais les biscuits. Et quand c'était tout chocolat, ouais, des fois je mangeais le biscuit au chocolat tout seul et je laissais l'autre moitié, comme ça il y avait beaucoup de chocolat et beaucoup de biscuits. Enfin,
bon. Je vois la technique.
Merci.
Il y a aussi cookies.
Tu veux un cookie ?
Oh, mais je vais tenter le pécan, classique.
Le pécan, ouais. c'est le...
Ok, ben moi le tout choc, comme ça on peut partager.
Ouais, c'est intense.
Et est-ce que il y a des chocolats que tu détestes ? On pense toujours au Mon Chéri quand on parle de ça, mais...
Ah, c'est horrible, ah, je déteste. Ah, ouais. Merci beaucoup.
Ouais, le Mon Chéri, c'est un peu l'invention du diable.
le Mon Chéri, genre, ou les Raffaello, là, je trouve ça ignoble, vraiment dégueulasse.
Est-ce que tu as des souvenirs de ce que tu mangeais enfant?
Alors, les souvenirs que j'ai et qui manquent dans mon quotidien, c'est vraiment les plats que cuisinait ma mère. Ma mère cuisine hyper bien et cuisinait un plat différent pour chaque repas. Et ma mère vient du Sénégal, en fait, elle nous faisait des plats sénégalais et c'était trop bon. En fait, quand j'étais petite, je me rendais pas du tout compte de la chance de manger tout le temps de la nourriture fraîche. Ma mère, en fait, donc c'est beaucoup à base de poisson. Et donc, écailler le poisson, le couper, le mettre au congélateur. Et je ne me rendais pas compte, en fait, à quel point c'était exceptionnel, quoi. C'est, en plus, moi, j'ai grandi dans les années 80, 90, donc c'était vraiment nourriture industrielle, surgelée, etc., etc. Et nous, on n'avait jamais de surgelé. Les frites, c'était des pommes de terre découpées et frites, vraiment. Donc maintenant, je vais quand même souvent chez ma mère. Donc le dimanche, j'essaie de faire mes provisions pour la semaine. Mais c'est vrai qu'au quotidien, c'était royal, en fait.
Et est-ce que tu as transmis ça? Est-ce que toi, il y a certains plats de ton enfance que tu sais cuisiner maintenant et que tu cuisines ou t'as pas le temps?
Alors moi je ne cuisine pas. Ça m'arrive des fois, mais je fais les plats les plus rapides, donc les plats en sauce avec des légumes, donc les sauces qui vont avec le riz, avec du poisson, des crevettes, des choses comme ça, ou juste avec des légumes. Mais le plat que j'adore, qui est connu, qui est un classique du Sénégal, c'est le tchéboudjien, donc c'est du riz rouge en fait. On cuit dans la sauce tomate à base de poisson, et le poisson est farci avec du persil, des oignons, enfin de l'ail, enfin voilà. Et à côté de ça, il y a du chou, des carottes, de l'aubergine, enfin plein de légumes. Ça, c'est trop long en fait. Je crois qu'on met 3 ou 4 heures pour le faire. Et juste l'idée de faire un plat pendant 3 ou 4 heures, mais genre juste, c'est mort quoi. Donc généralement, j'appelle ma mère une semaine avant. Peut-être que des fois, je fais les courses et tout ça pour être sûre qu'elle ait tous les ingrédients, mais j'ai pas la patience. C'est hyper long. Et c'est vrai que ma mère, je sais pas comment elle faisait en fait, quand je réfléchis, parce qu'elle travaillait. Et en fait, on avait toujours un repas nouveau à chaque repas. C'est assez spectaculaire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai surtout pas la motivation, parce que je pense que je pourrais si je le voulais vraiment. Et puis c'est vrai que mon mari en fait cuisine lui, donc il est plus volontaire que moi quoi. Mais j'ai toujours été difficile. Hein. Encore aujourd'hui, je suis assez difficile.
Il y a des trucs que tu peux pas manger du tout quoi.
Ah ouais, 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 toujours. Bah déjà par exemple, j'aime pas du tout le fromage. Je trouve ça. Un clodeur, en fait, me dégoûte. Et je déteste ça.
Ça, t'as vraiment une catégorie de gens qui aiment pas le fromage et qui comprennent pas les gens qui en mangent.
C'est ça. Bah, en fait, je sais pas, l'odeur, la moisissure, ça devrait être un indicateur quand même de comestibilité, je sais pas. Non, moi, je supporte pas. J'ai jamais aimé. Et quand j'étais petite, comme c'était la grande époque des produits laitiers sont vos amis pour la vie, on m'a tellement forcée à consommer des produits laitiers. Mais une fois adulte, non seulement j'ai arrêté, mais après j'étais contente de me rendre compte que la science m'avait quand même donné raison d'une certaine manière.
Ouais, c'est intéressant en fait, parce que c'est aussi des histoires de lobbying à cette époque. Et du coup, on se rend compte que parfois les modes de ce qu'on mange, etc., ça n'a rien à voir avec ni le fait que c'est bon pour la santé, ni le goût, quoi. C'est qu'on se fait un peu manipuler par l'industrie.
Bah, c'est complètement ça. En fait, moi, quand j'étais petite, à la maternelle, on avait des petites briques de lait, en fait. Et j'ai découvert que c'était les surplus de l'Union européenne qui étaient donc acquis, notamment des agriculteurs qui étaient acquis. Qui est distribué notamment dans les écoles. Et en fait, on a vraiment grandi avec cette propagande du lait qui était hyper nécessaire pour nos os, pour notre croissance. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on en revient beaucoup. Même pareil, la présence de la viande nécessairement à chaque repas, mais que vraiment on est prisonnier en fait de la pression des lobbies qui, pour trouver des débouchés économiques à leur production, créent des narratifs ou des récits qui nous laissent entendre qu'il faut absolument qu'on consomme tel ou tel type de produit. Et ça, c'est vraiment terrible quand j'y pense.
Il y a ces discours-là qu'on entend en France. Et pour le lait aussi, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, au moment du confinement, il y a eu beaucoup de surplus de lait. Et notamment, donc on a fait beaucoup de lait en poudre qu'on a envoyé, le surplus européen, dans les pays africains. En fait, l'histoire de l'alimentation, c'est aussi une histoire de la colonisation et encore aujourd'hui.
Alors oui, à plein de niveaux. Bah déjà là, on est dans un lieu de chocolat. Le chocolat, c'est vraiment l'histoire de la colonisation. C'est le cacao, c'est un aliment qu'on a découvert dans les Amériques. Et c'est intéressant de voir comment notre petit déjeuner s'est complètement structuré autour de tout ce que les Européens ont conquis, ont envahi dans le cadre de la colonisation, et puis produit dans le cadre de l'esclavage. Qu'on pense au café, qu'on pense au sucre, qu'on pense au cacao, c'est vraiment des productions qui étaient le fruit d'une grande souffrance, en fait, et en fait, qui sont devenus à la mode dans, sur le continent européen du fait du travail forcé et gratuit de populations déportées depuis le continent africain. Je te parlais de la cuisine sénégalaise, une plante qu'on appelle le moringa, qui est maintenant hyper à la mode parce qu'elle est très protéinée, etc. Ça faisait partie de l'alimentation, en fait, des populations ouest-africaines et est-africaines. Et la colonisation a transformé cette alimentation, qui n'était pas une alimentation forcément riche en viande, mais le moringa, en fait, c'est un aliment qui est très protéiné, qui peut aisément remplacer la viande. Et cette plante a quasiment disparu, la consommation courante. Ma mère me disait qu'elle en mangeait beaucoup quand elle était petite et qu'au fil de sa vie, en fait, ça a disparu et que maintenant, ça revient à la mode. Mais sauf qu'on le trouve dans des boutiques bio à des prix incroyables, alors que ma mère est de Dakar, mais ma grand-mère était de Rombol, donc est vraiment un bled à la campagne. Enfin, c'est vraiment dans la région sahélienne. Et là-bas, on les ramasse par terre, en fait, ces plantes-là. Et c'est vrai que maintenant, bah, j'appelle ma tante, etc., pour qu'ils m'envoient de ces plantes-là qu'on lave et qu'on fait sécher et que je consomme directement. Mais quand on va dans des boutiques et qu'on voit que le prix que ça coûte et qu'il a fallu réapprendre à introduire ces aliments dans une alimentation qui, à la base, était équilibrée, c'est terrifiant. Et ça interroge beaucoup, en fait, sur les pratiques alimentaires qui sont liées à des invasions violentes et à la manière dont, en fait, les Européens ont valorisé leur propre façon de voir l'alimentation quand parfois elle était de moindre qualité par rapport à ce qui se faisait traditionnellement.
Je parlais de revêtir des lunettes et de voir en fait le monde à travers d'autres prismes. Alors évidemment ça demande des plus grandes responsabilités et en même temps je trouve que c'est comme si tu rajoutais des nouvelles grilles de lecture, que ce soit le féminisme, le racisme, et le monde il devient plus complexe et plus intéressant.
Exactement, je trouve que c'est un enrichissement et quand je vois autant de personnes se crisper en ce moment, soi-disant contre la woke culture, donc je pense pas qu'il y ait une woke culture, mais le fait d'être woke, ça signifie tout simplement d'être éveillé, et pour moi, être éveillé à d'autres considérations que son petit nombril et de considérer que le monde est traversé par des formes de domination, d'oppression, de sensibilité variées, plurielles, diverses, ça ne peut que nous enrichir. Je veux dire, moi je suis très très contente d'avoir déjà moi de faire partie d'une minorité dans un pays où la majorité est différente de moi, donc ça m'a amené en fait dès ma petite enfance, dès la crèche, à voyager entre chez moi qui était Sénégal Gambie et la cantine de la crèche, la cantine de la maternelle, puis de l'école primaire, donc des cultures différentes, des langues différentes, et pour moi c'est riche, ça m'a sensibilisée à plein de choses parce que mes voisins étaient d'origine diverse. Moi je me souviens que mes voisins mangeaient du requin, ils étaient originaires du Vietnam, enfin, et ma mère était, quand on rentrait, on a mangé du requin, maman, ma mère elle était ébahie. Donc ça montre aussi l'adaptabilité des enfants. Alors je sais pas si d'un point de vue écologique c'était super, mais en tout cas je trouve ça génial d'avoir appris à manger autre chose que la cuisine de ma mère et celle de la cantine alors que j'avais 5 ans et demi. Et ça c'est fort, et je pense que c'est génial de vivre une époque où on apprend à se décentrer et à considérer les sensibilités, les considérations de personnes qui ne sont pas nous ou notre famille directe. C'est juste génial, et je trouve que c'est triste en fait d'avoir peur de ça.
Tu passes à la télé, donc dans des débats où voilà, tu es souvent seule à défendre des positions qui ne sont pas partagées généralement par beaucoup de gens. Et tu es quand même en première ligne. Et est-ce que, avant de passer à la télé, tu as, je sais pas, une préparation psychologique, voilà, je me demandais si c'était comme les sportifs ou si tu mangeais un plat de pâtes avant d'y aller ou ce genre de choses, quoi.
Je pense que si je mangeais, je m'endormirais. Moi, en plus, moi, je m'endors super facilement et genre n'importe où. Donc, il suffit que je sois fatiguée et franchement, pour me tenir en éveil, il faut vraiment, vraiment. Tu pourrais m'endormir sur un plateau télé, mais genre sans aucun problème. Donc, ah ouais, mais vraiment, sans souci, quoi. Du coup, si j'ai pas la parole trop longtemps, je pense que vraiment, ce serait pas impossible en fait que je m'endorme. Et donc non, j'ai pas de préparation particulière. J'essaye, effectivement, je pense que c'est vraiment préférable pour moi de pas trop manger avant parce que sinon la digestion peut vraiment me ralentir. Non, ce qui peut vraiment me faire défaut, c'est le sommeil. Quand je suis trop fatiguée, je trouve que c'est super compliqué de trouver des mots, de trouver ces mots, donc je les cherche beaucoup plus. Et puis d'être vif en fait dans la réaction, parce que comme tu le dis souvent, bah, je suis souvent dans des plateaux assez masculins. Donc je suis souvent la seule femme, mais pas toujours, hein. De moins en moins, je trouve que ça bouge un petit peu quand même. Et en revanche, souvent la seule personne non blanche. Et c'est vrai que quand tu t'exprimes sur les questions notamment de racisme ou de sexisme, quand t'es la seule femme, ou quand t'es la seule noire en l'occurrence pour ce qui me concerne, ça peut déclencher un peu d'agressivité de la part de tes contradicteurs, contradictrices. Et ça, c'est compliqué. C'est vraiment, faut quand même avoir de l'énergie et avoir un régime de vie équilibré pour pouvoir répondre. Et voilà, donc bien dormir, faire un peu de sport, manger régulièrement, parce que sinon, en fait, ça demande quand même de la concentration et vraiment que ton cerveau soit bien nourri, sinon c'est vraiment trop chaud, quoi.
Et cette émission elle s'appelle Dans le ventre 2. Et je me disais en la préparant que toi, tu dois en avoir quand même dans le ventre pour supporter quand même tous ces débats et tout. Enfin, je sais pas, moi, j'ai relu du coup pas mal tes tweets, j'ai revu pas mal de vidéos et je me dis, tu restes quand même hyper constante dans tes positions et ça depuis plusieurs années.
Bah, disons que c'est marrant, mais je crois que je me suis vraiment découverte dans ma détermination à travers ces débats. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un d'assez réservé dans ma vie privée, dans ma vie quotidienne, et plutôt en retrait. Je suis pas quelqu'un qui me met en avant, qui va parler quand il y a une assemblée, tu vois, un dîner ou un truc comme ça. Mais j'ai l'impression, en fait, les gens de mon entourage me disent, mais quand t'es à la télé, on dirait que t'es possédée. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui s'empare de toi, qui est tellement déterminé que c'est comme si t'étais transfigurée. Et je crois que vraiment ma conviction dans le fait qu'il faut que je défende tel ou tel type de position fait que je suis complètement concentrée sur mon propos. Et c'est souvent pour ça aussi que je me laisse pas déstabiliser, c'est que je me dis, il faut que je dise ça, j'ai un début, j'ai une fin, j'ai des arguments et je fonce un peu comme un bulldozer, quoi.
Tu disais, ça fait des années du coup, que tu travailles sur ces sujets. Tu as aussi beaucoup voyagé. Quelles sont les personnes avec qui tu as déjeuné ou dîné les plus improbables? Je veux dire, les personnes avec qui tu n'aurais jamais imaginé partager un repas, en bien ou en mal, hein.
Alors, dans le monde, la dernière, puisque c'est un de mes derniers voyages en dehors du continent européen avant qu'on soit confiné sur notre territoire. Donc je suis allée chez Angela Davis, hein, qui m'a invitée à prendre le thé, du coup. Donc c'était pas vraiment un repas, mais voilà, parce que je voulais l'interviewer. Du coup, elle m'a invitée chez elle pour discuter de toutes sortes de choses liées à son parcours. Et effectivement, je n'aurais jamais imaginé être en Californie, chez Angela Davis, seule avec elle, en train de prendre le thé, et elle qui me raconte sa vie, ses combats, ses convictions. Enfin voilà, c'était juste magnifique, quoi. Moi, je voulais pas forcément revenir sur ce sur quoi on revient tout le temps. Le moment où elle était fugitive, poursuivie par le FBI, quand elle a été en prison, accusée de meurtre et toute la campagne internationale, mais plus sur ses combats actuels et sur la manière dont elle percevait les luttes actuelles. Et donc, c'était intéressant parce qu'elle est toujours en pointe sur la question de la transphobie. Je sais qu'elle est végane aussi, donc sur la question de la souffrance animale, du bien-être animal, elle est vraiment, vraiment, vraiment à la pointe. Et ça, c'est intéressant de voir qu'elle a très bien vieilli et qu'elle a vraiment une grande considération pour la jeunesse. C'était juste magnifique, quoi.
Ouais, parce que ça, j'imagine quand on est militant depuis longtemps, on en entend c'est-à-dire des vieux ou des vieilles militantes, et parfois on se dit, ah, voilà, ils ont mal vieilli. C'est comme les chanteurs qui ont mal vieilli, on se dit, merde. Et ouais, comment on fait, ouais, pour rester toujours à la pointe? Faut lire beaucoup, et en fait, faut rencontrer aussi des jeunes, continuer à écouter les jeunes, quoi, peut-être tout simplement. Mais...
Bah, c'est vrai que quand on voit certaines personnes qui font des bouquins sur une génération qui serait offensée en disant, oui, les jeunes, ils s'indignent de tout, c'est terrible, de mon temps, alors que, enfin... Pour des personnes qui ont à peu près mon âge, quoi. Moi j'ai 43 ans, donc je sais pas, moi je suis pas jeune, et donc du coup j'ai beaucoup de considération en fait pour les gens plus jeunes que moi, et je pense qu'ils ont beaucoup à m'apprendre, et c'est pas parce que moi j'ai une forme d'expérience qu'ils n'ont pas, que tout ce que je dis doit faire autorité. Et je pense qu'on se perd à partir du moment où on considère que son époque a été une époque qui doit servir de référence pour les autres, et qu'on considère que les jeunes ne comprennent rien et qu'ils sont perdus dans des formes de revendications qui sont excessives, quoi. Moi, j'essaie vraiment de comprendre et de me remettre en question. Alors, parfois, je ne suis pas d'accord, évidemment. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que font les jeunes. Et encore une fois, les jeunes, il y a toutes sortes de jeunes, hein, quand même. Le Rassemblement national fait d'excellents scores auprès de la jeunesse, donc il y a plusieurs jeunesses dans cette jeunesse, mais je crois que ce qui est vraiment fort chez Angela Davis, c'est sa faculté, effectivement, à reconnaître chez les plus jeunes générations des choses pertinentes. Et c'est vrai que tu parlais de gens qui avaient mal vieilli. Je pensais par exemple au chanteur Renaud, qui a appelé à voter François Fillon. Enfin, je me dis, mais à quel moment il est parti en vrille? Enfin, c'est complètement... C'est la figure du rebelle des années 70, et là, il vote, mais c'est même pas... Il vote pour Macron, ce qui déjà est, enfin, de mon point de vue... une forme de perte et de chute. Mais là, c'est Fillon, c'est-à-dire la droite, homophobe, réactionnaire, enfin, horrible, quoi.
Donc, je te demandais avec qui tu avais mangé dans les personnalités les plus... Voilà. Tu allais me dire, il y en avait aussi d'autres,
oui,
non?
Oui, non, mais... Alors, je sais pas si j'ai déjà mangé avec elle, mais ce serait même pas impossible. Je pense à Elisabeth Lévy, je sais pas si tu vois qui c'est une chroniqueuse... journaliste qui est vraiment à la droite de la droite, et je pense qu'on est d'accord sur rien. Mais en fait, en même temps, c'est marrant parce que tu te rends compte que même si tu ne partages pas de convictions, on est quand même des êtres humains. Tu vois, j'ai perdu mon père il y a à peu près une dizaine d'années, on travaillait dans la même émission. Il y avait plein de gens dans l'émission et je me suis absentée du coup pour l'enterrement de mon père. Et quand je suis revenue, en fait, la seule personne, alors qu'il y a plein de journalistes de gauche hein, dans l'émission, qui est venue me voir et qui m'a dit « ça va, qu'est-ce qui s'est passé ?» C'est Elisabeth Lévy. Et c'est fou parce que tout ce qu'elle défend, en fait, heurte mes valeurs. Mais humainement, je me dis bah, « en fait, c'est la seule personne qui est venue me voir et d'un point de vue humain, qui m'a témoigné de la compassion. » Et c'est là que tu te rends compte qu'il y a des postures idéologiques, mais on est quand même des personnes. Donc oui, on peut partager parfois des repas avec des gens... sur lequel, qui nous heurte en fait vraiment du point de vue des valeurs et ce qu'ils disent sur plein de choses auxquelles on croit et en même temps qui humainement bah, tu sais que c'est cette personne là qui va se préoccuper de toi quand tu vas vivre un drame en fait.
Merci Rokhaya.
Je t'en prie, merci à toi.
Il est 11h28, on est dans les temps hein.
Alors là c'est un timing parfait, merci Zazie.
J'ai laissé partir Rokhaya avec son cookie emballé et une tablette de chocolat en plus dans son sac. Si vous voulez continuer à mieux connaître Rokhaya Diallo et son travail, ses derniers livres, comme « La France, tu l'aimes ou tu la fermes » ou « Ne reste pas à ta place », sont en vente dans toutes les bonnes librairies. Vous pouvez aussi visionner ses documentaires en VOD, retrouver ses chroniques dans l'émission de David Pujadas ou encore écouter son podcast Kif Taras sur Binge Audio. Toutes les infos sont sur son site rokhayadiallo.com. Dans le ventre est un podcast produit par Sony Music, imaginé et écrit par Zazie Tavissian et réalisé par Geoffrey Puitsch. Merci au groupe Bagarre pour l'utilisation de leur titre Malouve dans notre générique. Et merci aussi au laboratoire de Sony CSL pour la collaboration. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous.
Est-ce que ça vous a plu comme ça?
Ah, j'ai adoré.
C'est vrai?
Ouais, le chocolat, le cookie, c'est un délice.
Ah oui, c'est...
Les deux, j'ai goûté les deux, c'est vraiment délicieux.
Ah bah écoutez... Merci. Merci. Il est un peu différent notre chocolat, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont parfois surpris, mais c'est... Bon. Alors il y a une chose, que si vous avez encore le temps, si vous voulez goûter quelque chose, je peux vous faire goûter ce qu'il y a de meilleur ici.
Mais c'est tellement une punchline.
Bah oui, non, mais ça c'est...
Tu veux prévenir que t'es là, ouais.
Il y a qui c'est qu'on pourrait goûter le chocolat qu'on est en train de se faire.
Ça fait du
petit
faire
quoi, vous récupérez un balade. Alors, ça, c'est un chocolat au lait. Chocolat au lait que vous avez fait couper. Il est en train de se faire. Il est peut-être encore un peu granuleux. Mais là, il est dans la machine à 40 degrés, en train de se broyer. Ça, c'est ce que j'adore faire goûter aux gens.
C'est bon,
quand on me demande mon préféré, moi je dis c'est celui qui est dans la marmite toujours.
Avec un sens. C'est une tuerie. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Trop bon, je repars avec un super goût. Délicieux. Merci, Zazie. Salut. À bientôt. Et merci pour tout.
Je te tiens au courant.
Ça marche. Pardon.
En attendant, n'oubliez pas, bien manger, c'est bien. Bien manger, bien accompagné, c'est encore mieux.
Vous venez d'écouter un épisode de Dans le ventre, un podcast Sony Music France présenté par Zazie Tavissian. Si vous voulez écouter tous les épisodes du podcast, ils sont disponibles sur toutes les plateformes.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.